Yves Tréhard, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Tous contre Tréhard, c'est le vendredi soir.
C'est demain soir.
Face à Alain Duhamel, bonsoir Alain.
Bonsoir.
On va revenir sur cette conférence organisée aujourd'hui à Paris pour réunir des fonds pour le Liban, conférence internationale à l'initiative de la France et d'Emmanuel Macron. Écoutez le président de la République.
La guerre doit cesser au plus vite. Il faut un cessez-le-feu au Liban. Plus de dégâts, plus de victimes, plus de frappes ne permettront ni d'en finir du terrorisme, ni d'assurer la sécurité de tous. Dans l'immédiat, c'est une aide massive qu'il faut apporter à la population libanaise, qu'il s'agisse des centaines de milliers de personnes déplacées par la guerre ou des communautés qui les accueillent. Les Nations Unies ont lancé un appel à hauteur de 426 millions d'euros. La France apportera 100 millions d'euros à l'occasion de cette conférence. Je suis sûr d'une chose, c'est que la possibilité d'une civilisation se joue au Liban. C'est-à-dire la possibilité pour des femmes et des hommes dont les origines sont différentes, dont les religions sont différentes, de partager un même territoire et de vivre pour un même projet.
Alors, la France va donner 100 millions pour aider les Libanais. Est-ce que c'est efficace, ce genre de conférence, Alain Duhamel ?
Bah écoutez, honnêtement, c'est une conférence qui est une conférence modeste. Elle l'est par ceux qui étaient les participants. Et puis, il faut dire les choses comme elles sont. Elle l'est aussi par les sommes qui ont été récoltées, qui ne sont pas du tout à la hauteur des problèmes qui s'y posent.
800 millions de dollars d'aide humanitaire récoltée, 200 millions pour l'armée libanaise.
Oui, bah oui, ça c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Mmh. Non, mais on sait très bien deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas faire de miracle au Liban compte tenu de la situation qui y règne. Et l'autre chose, c'est qu'on, et quand je dis on, c'est en particulier la France, parce que tout le monde ne le sait pas, mais on a joué le rôle décisif dans la naissance du Liban, qui était sous mandat français, et dont la constitution a été mise en place par la France, dont les institutions ont été mises en place par la France, et où la France a toujours eu une influence qui aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était, mais qui existe toujours. On a un principe de non-indifférence. Alors, la situation est affreuse. Elle est affreuse parce qu'il y a l'offensive d'Israël, qui a donc plus d'un million de Libanais qui ont été obligés de quitter leur maison, qui a des destructions, des morts, etc. Elle l'est parce que le Hezbollah terrorise le reste de la population, dont la grande majorité n'a pas du tout envie d'être sous son emprise, y compris parmi des chiites, c'est-à-dire là où est son point fort. Là, il y a une situation financière apocalyptique, mais apocalyptique, et il y a une énorme crise, à la fois économique par ailleurs, et institutionnel, ça fait
qui
deux ans.
Avant la guerre.
Ça fait deux ans. Oui, mais ça a été un pays prospère. Moi, je l'ai connu, je l'ai vu, j'ai parcouru. C'était un pays prospère et pacifique. Et aujourd'hui, c'est un pays dévasté et en pleine crise. Bon, mais en même temps, j'ai fini, hein. Mais en même temps, on est condamné à la non-indifférence. Et la première des choses, c'est essayer de faire ce qu'on peut pour décrocher un cessez-le-feu et aider ce qui est dans nos possibilités à régler la crise institutionnelle, c'est-à-dire choisir un président de la République.
Effectivement, Alain a rappelé l'histoire, et c'est vrai que l'histoire entre la France et le Liban, c'est une histoire ancienne, c'est une histoire de présence, c'est une histoire mêlée avec beaucoup d'intérêts français, notamment la présence d'une communauté chrétienne importante avec laquelle on était très liés. On a joué un rôle aussi. On a joué un rôle aussi pendant la guerre civile dans ce pays. On a d'ailleurs on a payé le prix fort. Nos soldats, il y a eu l'histoire du Drakkar quand même. Mais eh bien, on peut pas dire que la politique étrangère du président de la République ait été très efficace au Liban, puisque
après l'explosion du port de Beyrouth,
où le Hezbollah d'ailleurs est largement responsable de cette explosion, il avait promis 1000 choses qu'il n'a jamais tenues. Il avait promis, d'être tout de suite actif pour réconcilier tout le monde. Il a réconcilié personne, et on peut dire une chose, c'est qu'il n'a pas tenu ses promesses, comme il n'a jamais tenu ses promesses en politique étrangère.
Partout, on va d'échec en échec.
La France est en situation d'échec aujourd'hui. Et ce qui est en situation d'échec, c'est la parole du président de la République. Quel que soit le continent sur lequel il est allé et il a parlé, il a échoué.
Bon, ça c'est de la polémique. En tout cas, à mes yeux, c'est de la polémique. Ça signifie pas qu'il n'y ait pas de critique à faire. Ça, c'est autre chose.
Quelles sont ses réussites alors ?
Mais Non, mais je voudrais revenir un instant déjà sur le Liban. Enfin, on ne va pas faire tout le débat sur le Liban, mais c'est vrai qu'il s'est précipité quand il y a eu cette explosion gigantesque.
C'était en plein mois d'août.
Absolument.
Il y a 3 ans.
Bon, il s'est précipité. Il a eu raison d'y aller, pour le coup.
Bien sûr.
Correspondait. Et c'était d'ailleurs plutôt dangereux. Et ça lui avait été déconseillé. Il a voulu faire beaucoup de choses. Bon, on a une marge d'action, il faut le reconnaître, qui n'est pas une marge d'action gigantesque. On n'est pas absent ou indifférent, et en particulier...
On est présent à travers la FIDUL.
Et on est présent à travers nos soldats, et qui sont en plus entre Israël et le Hezbollah. Oui. Hein, exactement, ils sont là pour ça d'ailleurs. Et Jean-Yves Le Drian passe, donc ancien ministre des Affaires étrangères...
Missionné par le président de la République.
Oui, mais là tout le temps. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout inactif. Alors, c'est vrai que on n'a pas fait de miracle.
Oui, mais sur le Liban précisément, certains reprochent à Emmanuel Macron d'être plus sévère avec Israël qu'avec le Hezbollah, de ménager le Hezbollah, non, parce que la France voudrait continuer à pouvoir parler avec le Hezbollah.
La particularité française et qui ne date pas d'ailleurs d'Emmanuel Macron. La particularité française, c'est qu'on essaye de distinguer entre le Hezbollah militaire, dont on reconnaît que c'est un mouvement terroriste, ce qui est la vérité, c'est un mouvement terroriste, et en plus, qui terrorise la population libanaise, en plus du reste.
Bien sûr.
Bon, donc,
financé par l'Iran.
Et de continuer à avoir des contacts avec le Hezbollah politique qui est représenté au Parlement.
Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux?
Non, mais moi, je pense que non.
Le chef du Hezbollah disait qu'il n'y avait pas de différence.
Mais si on veut avoir un rôle distinct des autres, c'est d'essayer d'avoir la possibilité de parler aux différentes parties. Bon, je ne parle pas du Hezbollah militaire. Ça n'a pas fait de miracle. On n'est pas arrivé à des résultats prodigieux. Hein, autrement, ça se verrait. Mais le fait d'essayer n'est pas ridicule. On est les seuls à avoir ce type de contact. Bon, ça
on a raison de continuer à discuter avec le Hezbollah.
Politique.
Il faut toujours discuter avec l'ennemi. Sinon, vous n'arrivez pas à la paix.
Oui, on fait toujours la paix avec son ennemi.
Donc, c'est toujours avec un ennemi que vous faites que vous dialoguez. Non, le problème du président de la République, c'est qu'il fait des zigzags, si vous voulez. Le zigzag principal, c'est vis-à-vis d'Israël, parce que finalement, le sale boulot qui est fait au Liban pour se débarrasser du Hezbollah, les chrétiens du Liban sont bien contents que Israël essaye d'éliminer le Hezbollah.
Mais moins contents de recevoir des bombes.
Ben, certes, mais c'est pas eux qui les reçoivent, ils les reçoivent très peu, comme vous le savez. C'est surtout Beyrouth Sud qui reçoit les bombes.
Comme je le sais aussi, et vous également, quand on bombarde, on n'est pas toujours sûr de bombarder les méchants et pas les gentils.
Certes,
quand on voit la population chiite, en partie sous influence de Hezbollah, qui veut se réfugier dans des villages chrétiens, les villages chrétiens ne sont pas emballés du tout.
Mais quand même, la France est quand même contente. On peut se satisfaire de voir que parce que c'est un groupe terroriste qui a mis le Liban sans dessus-dessous depuis près de 40 ans, plus de 40 ans, et les nations occidentales, que ce soit les États-Unis, que ce soit les Européens, sont bien contents de voir que c'est le Hezbollah qui fait... Israël qui fait le sale boulot. Et c'est vrai que nous, la voix de la France, elle est où la voix de la France dans cette région du monde comme ailleurs? On la cherche parce que elle a tellement évolué, elle a tellement zigzagué qu'il n'y a aucune constance.
Bon,
par rapport à Israël, par exemple, on en a déjà parlé avec Alain, c'est très difficile de suivre la parole du président de la République qui est assez inconstant.
Plus loin parce que Israël disait que... Oui, mais avançons parce que la question c'est des échecs pour Macron d'une manière générale de sa politique étrangère.
Non, mais moi je veux d'abord.
D'accord, alors répondez. Mais avançons.
Un peu sur Israël. Sur Israël, il y a eu des erreurs de formulation, de communication, il y a eu des initiatives qui étaient difficiles à comprendre, etc. Mais moi je me rappelle deux choses. La première, c'est que la politique française vis-à-vis d'Israël a toujours été critiquée, quel que soit le président de la République, par les alliés.
Charles de Gaulle, 1967.
Oui, mais tous. Pour une raison très simple, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on est autonome dans une région qui est sous influence américaine. Oui. On est autonome, donc différent. Et la deuxième chose, c'est qu'on cherche toujours deux présidents en président, hein. Chirac comme François Hollande, à mener une politique d'équilibre. C'est-à-dire, on est des amis d'Israël, évidemment on souhaite sa sécurité, on souhaite sa prospérité et on souhaite la paix, mais les Palestiniens ont vocation à avoir un jour un État. Bon, c'est une politique d'équilibre, elle ne plaît pas à tout le monde, et c'est vrai à propos d'Emmanuel Macron, c'est vrai à propos de tous ses prédécesseurs. Président français sans aucune exception, si vous avez une exception à me proposer, je suis preneur.
Je n'en ai pas.
Bon, alors donc je n'invente rien. C'est une situation qui est un peu marrante. Alors qu'en plus, il y a des problèmes d'expression, bah oui, il y a des problèmes de formulation.
Tout à l'heure, Yves allait plus loin et disait que d'une manière générale, la politique étrangère depuis 7 ans d'Emmanuel Macron est un échec. Pourquoi vous êtes aussi sévère?
Parce que vous prenez continent par continent. On va commencer par l'Afrique. En Afrique, le président de la République... Et quand même, c'est sous sa présidence que la France s'est retirée du Sahel. Elle n'est pas arrivée au Sahel avec lui, mais elle s'est retirée du Sahel un peu à cause de lui, parce qu'il n'a pas su non plus adapter notre dispositif militaire à la situation sur place. Et le sentiment anti-français a largement monté alors qu'il ne s'en est pas rendu compte et il a été mal informé. Vous remontez un petit peu, vous allez au Maghreb. Entre le Maroc et l'Algérie, il n'a pas arrêté de zigzaguer, il a essayé de se rapprocher de l'Algérie, ça a été un échec et c'est un échec total. Moralité, on s'est fâché avec le Maroc, maintenant on se rapproche du Maroc, il doit partir pour le Maroc d'ailleurs en début de semaine prochaine.
En visite d'État.
Après, vous prenez Proche-Orient.
Ça va mieux.
On prend le Proche-Orient. Mais on vient d'en parler. Le Proche-Orient, les déclarations du président de la République, notamment sur Israël, et les promesses qu'il a faites au Liban sont des promesses qui ont été sans effet, sans suite. Il s'en est absolument pas occupé parce qu'il a des belles phrases. Quand il vous dit, c'est là que on doit construire la civilisation. Certes, oui. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez l'Ukraine. L'Ukraine entre Kiev et Moscou, il n'a cessé non plus d'évoluer.
Non.
Vous prenez l'Europe. Mais si, il n'a cessé d'évoluer. Après, vous prenez l'Europe aujourd'hui.
Israël, on l'a fait déjà.
La France n'a jamais été aussi faible que ça dans l'organisation européenne. Madame.
Donc c'est un réquisitoire, là.
Et puis, je pourrais aller plus loin encore.
Maître Duhamel va défendre, peut-être.
J'ai pas à défendre.
Non, mais
j'ai essayé.
À mesurer.
De trouver où sont les équilibres. Je trouve que ce que Yves dit, il le dit avec de l'éloquence et de la fougue, mais est totalement caricatural.
Non.
Alors, il y a un point sur lequel je suis tout à fait d'accord, parce que ça, c'est la vérité, c'est l'évidence même, c'est le repli vraiment désagréable dans la forme, probablement nécessaire à un moment, mais désagréable depuis le Sahel. Ça, je ne discute pas ça, c'est la réalité, donc je ne discute pas. En ce qui concerne l'Algérie, oui, c'est difficile avec l'Algérie, comme tous ses prédécesseurs. Hein, tous ont essayé.
Oui, mais il a essayé de se rapprocher.
Non, mais Chirac aussi, à un moment, a essayé.
Certes, mais c'est allé beaucoup plus loin avec Macron.
C'est allé un peu plus loin. Mais en revanche, par exemple... Aujourd'hui, clairement, il a choisi la réconciliation, l'équilibre avec le Maroc. Eh ben, c'est une bonne décision.
Certes, c'est bien. Après 3 années de fâcherie.
Oui, mais les fâcheries, elles sont pas forcément.
Que je dis, 3 années, beaucoup plus que ça d'ailleurs.
Les fâcheries, vous le savez comme moi et comme Olivier le sait très bien, il y a eu fâcherie à cause de ces fameuses écoutes clandestines de l'Élysée.
Pas uniquement.
Non, mais ça joue un rôle personnel.
Mais pas uniquement. Le message aux Marocains, c'est très désagréable.
Le président et le roi en ont parlé eux-mêmes au téléphone, alors qu'on parle rarement au téléphone au roi, et ce sont, pour dire les choses, engueulés sur ce sujet.
Mais c'est pas le seul motif.
Mais notamment avec un souverain, notamment avec ce souverain-là, qui est pas un imbécile, hein.
Pas du tout.
Bon, mais qui est aussi à son orgueil et susceptible. Il s'est fait passer un savon, faut dire les choses. Mais le savon était justifié parce qu'on va quand même pas dire que c'est normal que un pays avec qui on est allié fasse écouter le président de la République à l'Élysée. Enfin, ou alors, je sais plus.
Les Américains ont fait la même chose aussi avec leurs amis.
Et alors, est-ce que c'était bien?
Non. Hein, et peut-être que nous on le fait aussi.
C'est un système israélien d'ailleurs, le système Pegasus.
On n'est pas à l'abri d'apprendre qu'on le fait aussi.
Bon, mais donc, de ce point de vue, les choses sont en train de s'améliorer avec le Maroc. Mais je voudrais en arriver à l'Europe, parce que là, alors je suis en opposition totale. Qu'aujourd'hui, avec la cohabitation, l'influence d'Emmanuel Macron à Bruxelles est déclinée, c'est la vérité.
C'est lui qui l'a provoqué.
Mais non, mais c'est la vérité. Non,
mais Alain, ça n'a rien
attendez,
à voir.
Me dites pas que je ne l'ai pas critiqué,
la dissolution. Alain, ça n'a rien à voir avec la cohabitation.
Si,
quand est-ce que ça cohabitation, d'ailleurs.
Non, oui. C'est, d'ailleurs, on ne parle pas de cohabitation, on parle de quoi? De collaboration de...
Qu'aujourd'hui son influence est déclinée à Bruxelles et dans les instances européennes, c'est vrai, à cause de la situation politique française. Pour le reste, il a été, et je trouve que c'est pas normal de ne pas le reconnaître parce que c'était flagrant. Il a été de 2017 à 2022, de très loin, celui qui a pris le plus d'initiatives. Non seulement fait les plus beaux discours, ce qui était le cas d'ailleurs, et lancé le plus d'idées, mais aussi obtenu des résultats considérables, imprévisibles au départ, contraires à tout ce que voulait la tradition européenne, pour arracher, notamment au moment du Covid, un financement européen dont que personne n'imaginait avant, en dehors de gens comme Draghi ou l'État, etc.
C'est-à-dire, Alain n'était pas le seul à c'est être
lui
à la manœuvre.
C'est lui qui l'a arraché.
Angela Merkel était à la manœuvre
mais
aussi.
Mais non, Angela Merkel a fait tout ce qu'elle pouvait pour l'empêcher. Il a fallu la pousser comme on... il fallait un bélier.
Vous pouvez pas nier,
franchement, les deux discours marquants et le deuxième,
des beaux discours. Alors, est-ce que Emmanuel Macron, c'est pas le roi des discours?
Alors, vous mettez le mot de la bouche.
C'est normal, il est toujours du côté de l'invité.
Non.
Pas du tout, parce que tout à l'heure, il l'a dit. Il a dit, il fait des beaux discours.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, sur l'Europe, il a fait des très beaux discours. Il a fait le discours d'Athènes. Il a fait le discours d'Athènes. Il a fait le discours de, avec une vision, avec le discours de la Sorbonne, avec une vision, c'est vrai. Je vais reprendre une formule d'un de ses ministres. Il a une vision à 10 kilomètres, là où les autres ont une vision à court terme. Simplement, là où ça pêche, c'est dans l'exécution,
mais non.
Alain. Et dans l'exécution, vous pouvez pas nier que sur beaucoup de dossiers, et quel que soit le continent, eh bien, ça s'est arrêté juste après les discours. Pour ce qui est de l'Europe, je veux bien vous suivre sur le prêt, effectivement, enfin le prêt, l'emprunt, ou plutôt l'enveloppe.
Le financement.
Le plan de relancement.
Oui.
Le plan de relance de 700 milliards. De 750 milliards d'euros qui a été décidé. Mais en dehors de ça.
Mais c'était une énorme nouveauté pour l'Europe.
Parce qu'on l'a, mutualisé.
Eh bien oui.
En dehors de ça.
On essayait depuis 20 ans.
Aujourd'hui, la France est en panne à Bruxelles.
Non.
La machine bruxelloise est dans la main des Allemands. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Et Thierry Breton, qui était notre représentant là-bas, est parti parce qu'il savait très bien qu'il allait au casse-pipe.
Alain, un dernier mot. Est-ce qu'il lui reste 2 ans et demi, un peu moins? Est-ce qu'il peut redresser la barre?
Bon, c'est plus difficile maintenant que ça ne l'a été avant. Hein, ça, c'est bien clair. Est-ce que ça veut dire que rien n'est possible? Sur le plan européen, il peut toujours prendre des initiatives. Et s'il y a un petit peu de stabilité politique... Non, mais en France, à ce moment-là, et puis peut-être est-ce qu'il peut se faire écouter. Mais je pense qu'on sous-estime énormément l'empreinte qu'il a obtenue en Europe pendant 5 ans.
C'est dit.
Et que tous les présidents de la République française successifs n'ont pas tous obtenu, tant s'en faut.
Vous êtes un bon avocat.
Merci à tous les deux.